Bienvenue à vous, bravo et merci Pierre Barnérias aux racines auvergnates et bretonnes. Il a réalisé plus de 40 magazines et documentaires, parfois polémiques. Pierre Barnérias est l'auteur de « Ils ont marché dans le ciel » sur la traversée de 5000 km à travers l'Himalaya de Sylvain Tesson en 1998, mais aussi de « Hold Up » en 2020. Réalisateur en 2019 pour le cinéma de « Thanatos, l'ultime passage ». Ils se sont réveillés à la morgue ou de leur coma, ont parfois été déclarés morts par la médecine. Revenus de l'autre rive, ils témoignent de cette expérience indéfinissable, tant elle a changé leur vie, quelle que soit leur nationalité, leur religion ou philosophie. Bravo et merci Pierre Barnérias, enregistré à Metz, en prévision d'une projection débat dans le cadre du Dream Factory Festival, un entretien enregistré en compagnie de Christine Martin, en charge d'un magazine spirituel diocésain.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Bravo, merci Pierre Barnérias. Première partie et première question. Pourquoi vous êtes-vous lancé, Pierre, dans cette aventure?
Pour répondre à une question aussi simple que qu'est-ce qui se passe après la mort et qui nous concerne tous. C'est vrai que ce qui m'a motivé, ce qui m'a bousculé un petit peu au tout départ, c'est le fait d'avoir fait un film qui m'a, lui, vraiment marqué, qui s'appelle « Aimer le troisième secret », je ne sais pas si vous en avez entendu parler ici, c'est un film sur fameux secret dit de Fatima, de Vatican, donc qui annonce une guerre absolument effroyable, où les survivants enverront les morts, où les trois quarts de l'humanité disparaîtront. Et quand j'ai découvert cette information, qui est aujourd'hui validée, on va dire, par l'Église catholique, puisque c'est le secret d'Akita au Japon, le fameux message d'Akita qui a été reconnu comme l'une des rares apparitions reconnues au niveau du Vatican, ben je me suis dit, bon, très bien, la catastrophe arrive, qu'est-ce qui se passe après? Voilà, donc ça a été le point de départ, et après, il suffit de... Encore une fois, on a un outil qui est exceptionnel, qui est Internet, et vous tapez expérience, qu'est-ce qui se passe après la mort, vous tombez sur les NDE, les Near Death Experience, après vous tombez sur le livre de Moody, après vous commencez à lire, vous rencontrez des gens exceptionnels, voilà.
Et donc la première phase de votre travail, ça a été une recherche un peu documentographique, voilà. Essayer de vous renseigner. Vous aviez déjà entendu parler de ces expériences avant de vous lancer dans cette aventure?
Oui, j'avais déjà entendu parler d'expériences de mort imminente. Il se trouve que le hasard, enfin c'est pas de hasard, c'est que moi j'ai... Je suis devenu journaliste à la suite d'un accident de moto qui m'a mis, on va dire, 15 jours dans le coma. Et alors, je vous rassure, hein, j'ai rien vu. j'ai pas vu la Vierge, comme je l'ai déjà écrit. Mais voilà, cet accident a changé ma vie. Mais vraiment, réellement, puisque à la suite de cet accident, je suis devenu journaliste. Et alors que je m'apprêtais à faire des écoles de commerce qui m'auraient servi à rien... Et donc voilà, ça a été inconsciemment, en fait, je répondais à une question d'il y a 30 ans, et en découvrant les expériences de mort imminente, et surtout en découvrant, encore une fois, des chercheurs, des scientifiques qui cherchent aujourd'hui, ce qui se positionne sur la question de conscience extraneuronale, là j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire, quand j'ai découvert qu'il y avait plus d'une centaine de chercheurs dans le monde qui parlent de cette conscience extraneuronale, donc je me dis, mais si demain on a la preuve scientifique, maintenant que la vie ne s'arrête pas à la mort terrestre, qu'il se passe autre chose dans une autre dimension ailleurs, ben oui, ça j'ai trouvé ça passionnant.
Mmh. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur ces expériences a changé votre regard?
Ça l'a conforté, on va dire. Ça l'a conforté et ça l'a pas aiguisé, au contraire, ça l'a adouci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette sensation de se dire que ben, la vie sur Terre, c'est vraiment rien et qu'il faut mieux préparer la vie d'après, ben, ça vous fait accepter toutes les injustices. Ça vous fait accepter ces pourris qui violent des enfants de 3 ans ou 4 ans. Parce que moi, je les plains. Je les plains parce que je sais qu'il y a une justice. Et moi, si je suis journaliste, c'est que je suis un révolté de l'injustice. Et que je plains ces personnes qui aujourd'hui font du mal. Il y en a qui le font sans en avoir conscience, il y en a qui le font consciemment. Il y en a, et aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de sectes satanistes, enfin c'est impressionnant, hein, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et ben, aujourd'hui, le simple fait d'avoir rencontré ces gens qui sont vraiment des êtres à part, c'est-à-dire des gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente et qui ont vécu des choses incroyables, que ça soit négative ou positive, ben d'abord, un, elles vous communiquent leur rayonnement. Et deux, le fait d'avoir approfondi cette phase d'après, Ben, ça vous donne, oui, ça vous donne du courage, ça vous fait accepter les petits aléas de la vie, comme accepter ben, aujourd'hui de voir des zombies un petit peu partout. On dit, ben, c'est comme ça, mais il y a autre chose.
En Quand tout vous cas. Parlez des zombies, vous parlez des gens masqués.
Je parle de nous, hein. je parle de cette humanité qui, en moins d'un an, s'est retrouvée masquée, en moins d'un an, hein, s'il faut. Pourquoi ? Par peur de la mort. C'est rigolo quand même, par peur de la mort. Donc Thanatos, je pense que Thanatos, c'était un film prophétique parce que Thanatos, c'était juste un film pour dire, écoutez, n'ayez vraiment pas peur, quoi. N'ayez pas peur de la mort. Enfin, c'est au contraire, c'est une porte ouverte sur la vie et avec un grand V, quoi. Et quand je vois aujourd'hui que tout le monde, y compris des personnes qui sont pas loin, pas loin de l'ultime, c'est-à-dire qu'on a vacciné des gens de 103 ans, 104 ans, j'ai juste envie de crier en disant, mais laissez-nous mourir normalement, quoi.
En fait, vous remettez en cause 400 ans d'enseignement.
Ce n'est pas moi, ce sont les faits. Moi, je suis là que, en tant que rapporteur des expériences. Je suis un transmetteur, une certaine courroie de transmission d'expériences vécues par d'autres personnes pendant des arrêts cardiaques, c'est tout. Et j'essaye d'expliquer que peut-être ça ne fonctionne pas tout à fait comme on le croyait. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le cerveau qui fabrique la conscience.
Comment en 5 secondes on conduit à 32 ans de recherche ?
C'était la première fois que je devais intervenir sur un blessé aussi grave et seul médecin à pouvoir gérer cet accident. Et mon émotion qui monte, deux cadavres allongés sur le bord de la route recouverts d'un drap blanc et ce pompier qui me dit « Docteur, venez, il faut venir secourir un blessé dans une voiture qui était... » qui ressemblait plus à une voiture, c'était un amas de ferraille. Et du fait de mon émotion, je ne suis pas arrivé. Donc je revois encore ma main qui tremblait là sur ce bras livide et qui fouillait encore pour chercher cette veine qu'il ne trouvait pas. Et puis est arrivé l'inéluctable, c'est-à-dire que ce patient est décédé sous mes yeux. Et très jeune, une vingtaine d'années, j'ai vu ce visage très près du mien. J'ai vu... cette pupille qui se dilatait et j'ai senti physiquement une présence qui partait du haut de son crâne et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Alors ça peut paraître complètement dingue de dire ça dans ces circonstances aussi dramatiques, mais pourtant c'était ça, c'était quelque chose de vivant et joyeux et là j'ai compris, ma vie a basculé en quelques secondes.
Il y a une phrase qui nous a beaucoup interpellés avec Thierry quand on a eu la chance de regarder votre film. C'est une phrase que vous dites à l'introduction, d'ailleurs. Vous démarrez ce film, non pas par parler de la mort, mais parler de la vie. On voit deux jumeaux dans le ventre de leur mère qui sont en train de se parler entre eux en disant, mais finalement, est-ce que tu n'as pas peur, toi ? Qu'est-ce qu'il y a après la naissance ? Et il y a cette phrase.
Tu crois à la vie après la naissance.
Et puis, vous qui dites, est-ce que l'homme naît pour mourir ? Voilà, on est tous voués à la mort à un moment donné, c'est la date qu'on ne connaît pas, puis heureusement. Mais meurt-il pour naître ? Est-ce que c'est une question que vous aviez, vous, à l'intérieur, comme une question, vous disiez, dans votre expérience personnelle, quelque chose qui trottait dans votre tête ? Ou est-ce que c'est une question qui est née, finalement, après avoir rencontré tous ces gens, en disant que c'est peut-être le cœur du sujet ?
Cette question, elle nous habite tout à chacun. Hein. On a tous cette question en nous. On la formule beaucoup plus facilement en fonction des accidents de la vie et autres, mais on l'a en nous. Et il se trouve, pour répondre très clairement à votre question, non, cette question, je l'avais déjà... Je ne dis pas que j'y avais répondu, mais elle était déjà très présente, mais que j'avais envie de faire un film sans imposer quoi que ce soit, encore une fois. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un film en questionnant les gens sur l'après. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne se questionne sur l'après. La seule question aujourd'hui, c'est est-ce que je vais avoir à manger ? Est-ce que je vais avoir mon beefsteak ce midi ? Il n'y a que ça, c'est le nombril aujourd'hui. Le but ultime de l'homme, enfin pardon, hein, je porte un jugement, donc je ne devrais pas faire. Mais j'ai vraiment l'impression que cette question de l'après-vie ou de la mort, on l'a complètement évacuée. On est dans le divertissement, on est et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, sans aucun problème, tout le monde va se masquer parce qu'on va avoir peur de mourir. Mais non, il faut se poser la question et puis savoir y répondre. Et aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est pour ça qu'on a... On arrive dans une époque où c'est magnifique, c'est qu'on a quasiment la preuve aujourd'hui que la mort n'est pas une fin en soi, loin de là. Mais la preuve scientifique, même si je mets scientifique entre guillemets.
Vous êtes en train de faire les guillemets, je précise à nos amis qui nous aident avec les mains.
Ouais, enfin c'est bon, ça Ça m'amuse parce que c'est effectivement maintenant c'est la science. La science a dit, regardez, il suffit qu'il y ait un conseil qui nous demande de nous mettre à quatre pattes pour échapper à un virus qui volerait à 60 cm au-dessus, on se mettrait tous à quatre pattes. Aujourd'hui, malheureusement, voilà, on n'écoute que la science, alors que on devrait écouter et relire des philosophes, on devrait écouter et relire des... Je pense que nos ancêtres, s'ils nous voyaient aujourd'hui, ils seraient effarés, quoi.
J'étais arrivé enfin du soin de conservation, donc j'avais terminé. Je me tournais pour ranger dans mes valises ce qu'il y avait rangé. Et puis, il y a un mouvement invisible. Vous savez, vous percevez quelque chose. Je percevais quelque chose. Je me retourne et là, je vois le corps qui petit à petit se soulève du lit et qui s'arrête au niveau de mes yeux. Là, j'en ai encore la chair de poule, quoi. C'est le froid qui m'envahit parce que c'était une situation exceptionnelle. Vous n'avez pas peur, mais vous n'osez pas bouger. Vous n'osez pas bouger de peine de faire quelque chose qui pourrait être néfaste à cet événement qui dépasse l'entendement humain.
C'est vrai que le but de ce film-là, c'était d'évoquer un sujet qui n'avait jamais été évoqué dans un grand média. C'est quand même étonnant de savoir que cette question-là, est-ce que vous avez déjà vu un seul documentaire à la télévision parler de ça? Un seul documentaire. Aujourd'hui, alors peut-être que sur Netflix, il va y avoir des sujets, mais en télévision, où on sait très bien que la télévision ramasse le plus grand nombre de personnes, et j'ai regardé, il n'y a pas eu un seul documentaire télévisé consacré à ces expériences de mort imminente. Et je n'ai pas trouvé une seule chaîne de télévision pour me suivre dans mon financement pour fabriquer ce film. Pourquoi? Alors que c'est l'égalité parfaite.
Oui, on est tous face à cette question.
On va tous mourir, sauf pour les...
Mais c'est pas un scoop total.
Ouais, sauf pour Google quand même. Parce qu'on sait que Google aujourd'hui, leur trip, c'est l'immortalité. Les docteurs Alexandre, c'est l'immortalité. On va vers ce transhumanisme pour accéder à cette immortalité. Donc c'est une question qui est là, qui est présente chez tout le monde. Et j'ai essayé d'apporter une réponse toute simple avec des scientifiques qui se questionnent ouvertement sur qu'est-ce qui se passe après. Ben, regardez, je donne dans le film un chiffre et je suis bien en deçà. Bien en deçà. Je dis que 4% de la population mondiale a vécu non pas une expérience de mort imminente, mais a vécu ce genre d'expérience qui permet d'approcher l'au-delà ou l'après-vie. 4%. Je suis convaincu, au vu des séances que l'on a organisées depuis quasiment un an, depuis la sortie de ce film, ça dépasse largement. Il y en a au moins 10%.
Ce qui veut dire 280 millions. Hein, je l'ai noté.
Ah oui,
280 millions de personnes.
C'est énorme. C'est énorme. Et moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Regardez, on dit, oh, c'est incroyable, ça. C'est arrivé, quand vous avez, par exemple, un événement qui coïncide exactement à un autre événement et des synchronicités. Ah. Voilà, il y a des synchronicités qui sont quand même hyper troublantes. Vous dites, oh, ça, c'est incroyable. Donc, il y a plein de petits signes comme ça, sans forcément mourir d'un arrêt, enfin, d'avoir une expérience à la suite d'un arrêt cardiaque. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité scientifique de toucher cette ultime.
C'est une aspiration dans un espèce de tuyau. Dans un espèce de... un vrai tunnel, quoi. Et comme si on était une toupie. Et on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, et hop, on part. C'est très bizarre à dire, on se prend pour un oiseau. Tout d'un coup léger, tout d'un coup tout est beau. On voit des ombres furtives autour de vous. Tiens, c'est bizarre, on voit des choses. Et puis après, vous êtes parti. Et il n'y a même plus de doute. C'est-à-dire qu'on vous enlève ce doute. Vous êtes bien, quoi. Tout simplement dans un état de béatitude.
Bravo, merci Pierre Barnérias, réalisateur de Thanatos, l'ultime passage, enregistré en compagnie de Christine Martin.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Peut-être un petit mot sur l'histoire de cette notion. Il y a un inventeur, il est cité dans le film, l'inventeur de cette terminologie, EMI, expérience de mort imminente, qui est un professeur qui s'appelait Victor Egger. C'est lui qui est peut-être le père de cette idée. Et je le cite d'autant qu'il est passé par la Lorraine. Il fut prof à la fac à Nancy et il fut même le prof de Marcel Proust.
Bravo.
Donc il y a lui et il y a Raymond Moody qui était un psychiatre américain dans les années 70 qui décrit vraiment les premières expériences de mort imminente.
Absolument, absolument. Vous êtes bien renseigné, absolument, c'est ça. C'est récent, Alors que je suis convaincu qu'il y a, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a déjà eu des gens. Je crois que les grands philosophes rapportent des expériences de mort imminente, déjà à l'époque, parce que ça a toujours existé, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette expérience nous est relatée dernièrement par par des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Mais des grands philosophes ont déjà eu ce genre d'expérience qui ont déjà été relatées dans pas mal de livres et de littérature également.
Alors, les témoignages sont nombreux dans Thanatos, l'ultime passage, Pierre Barnet-Arias. Comment avez-vous effectué votre casting, on peut parler de casting, entre les scientifiques, les médecins et les témoins?
Le premier tamis, ça a été, je voulais avoir des expériences qui soient cloutées, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire qui soient vérifiées, où il y a eu des livres indiscutables. Je voulais vraiment avoir des stars, en quelque
sorte. C'est ça, j'allais vous le dire.
Des
stars de l'EMI.
Des stars de l'EMI, bah oui, quand vous avez, comment s'appelle
la... Anita
Anita Morgiani, voilà. Mm. Quand vous avez Anita Morgiani, dont vous savez que Ridley Scott est en train vient d'acheter les droits de son livre. Donc Ridley Scott, c'est pas un petit réalisateur américain. Oui. Et son expérience, elle est complètement foudroyante. Elle est extraordinaire. Et c'est vrai que, voilà, donc je voulais avoir dans le film des gens qui sont incontestés. Donc il y avait Anita Morgiani.
Donc on peut
il y avait
peut-être dire un mot. Alors attardons-nous quelques instants sur Anita, comme ça nous en aurons parlé, qui avait un cancer, qui était en phase terminale et elle allait vraiment mourir. Hein. C'était une question de quasi de minutes.
Hein. Elle n'avait que la peau sur les os quand elle est arrivée et son mari a dit bah, écoutez, voilà. Et le médecin, quand elle l'a accueillie, elle lui a dit écoutez, c'est fini. Hein, là, je pense qu'elle va. Et puis elle se sentait très très mal. Donc elle est arrivée au service des urgences à Hong Kong. Et effectivement, bon, elle est morte, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans un coma très très profond et le médecin lui dit, écoutez, c'est fini.
My name is Anita Morgiani. I have experienced being on the brink of death.
Et ben non. et le ce cas, il est absolument incroyable parce que non seulement elle est revenue après, elle s'est réveillée. Je ne sais pas, quelques heures après. Mmh. Et alors, son médecin était sidéré de la voir avec les grands yeux en disant, écoutez, je vais bien. Pardon ? Mais qu'est-ce que vous faites là encore ? Et en l'espace de 3 jours, je dis bien 3 jours, moins de 3 jours, son cancer avait totalement disparu. Et le médecin, il s'est acharné, le médecin, il était paniqué. Parce que ça, tout son bloc scientifique, tout ce qu'il avait appris depuis 30 ans, était en train de s'effondrer. Mmh. Et donc, il n'a pas arrêté de faire des prélèvements. Alors, tout de suite, dès qu'elle est revenue à la vie, elle lui dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me détacher? Parce que là, si je vais bien, je vais pouvoir manger normalement. Mais non, hors de question de vous détacher. Vous allez bientôt mourir. Donc, non. Lui, il était convaincu que de toute façon... Et non, et donc elle insistait, en 2-3 heures, il lui a fait de nouvelles analyses. Les nouvelles analyses montraient qu'il y avait 30% de ces métastases qui avaient complètement disparu, donc il commençait à s'inquiéter. Et en 3 jours, elle est sortie, mais je ne dis pas qu'elle pouvait faire un marathon, mais c'était ça, quoi. Ouais. Donc elle, ce que j'avais appelé, elle, c'est une EMI. En fait, elle a fait son EMI, elle a décidé de revenir, parce qu'on a toujours le choix, c'est ça qui est incroyable, enfin, ce que j'entends dans les... Enfin, le choix, non, on n'a pas forcément le choix. Mais quand elle est revenue de cet ailleurs, elle est revenue parce qu'elle avait la certitude qu'elle allait guérir. Ça, c'est magnifique, ça.
Ouais.
C'est vrai que c'est un des témoignages
voilà,
qui est super fort.
C'est une des, vraiment des vedettes du film. Et d'ailleurs, il y a un petit noyau qui vont se retrouver à la fin pour partager une raclette. Une fondue savoyarde. Et elle a entendu, ça c'est aussi vraiment très très étonnant, elle a entendu la conversation donc de son mari, je crois que c'était son mari avec le médecin, une conversation qui s'est tenue hors de la chambre.
C'est ça, c'est-à-dire que la preuve absolue, c'est qu'elle a entendu, parce qu'elle entendait tout ce qui se passait, il se trouve que son mari... Dany était dans un autre couloir à quasiment 100 mètres de la salle où elle était. Et elle a entendu la conversation où son médecin lui disait « Écoutez, voilà, Anita ne va pas survivre. » Mais en des termes très précis. Elle lui a parlé pendant 2-3 minutes. Et quand Anita est revenue à la vie, elle a rapporté exactement mot pour mot ce qui s'était passé. Ce que les propos que le médecin lui avait donné peut-être quelques minutes plus tôt.
Et donc, elle a nommé, elle a appelé le médecin Par son nom.
Mais comment vous
alors
savez-vous
qu'elle ne l'avait jamais rencontré.
Elle l'avait jamais rencontré.
Ne le connaissait pas.
Elle ne le connaissait pas. Mais bonjour Dan, comment ça va?
Imaginez-vous.
Je vous envoie.
Je suis parvenu seul, tout simplement. Au fur et à mesure que j'ai accepté leur présence dans ma vie, parce que ça n'a pas été si facile que ça, ça a mis beaucoup de temps pour que j'accepte leur présence. Je pense que c'est un tremplin qui aide pour lâcher le réel, accepter qu'il y ait autre chose que le côté purement matériel, en fait. Et du coup, on se permet de ressentir des choses. Je pense que ce sont des choses qui sont accessibles à tout le monde, mais qu'on est tellement bloqué par le réel qu'on s'en rend pas compte. Par exemple, Doris est aveugle, et c'est vrai que du coup, il écoute des sens qui sont complètement différents, et nous, on est bloqué par le visuel. Tout ce qu'on fait, c'est s'arrêter sur ce que l'on voit. Et lui perçoit des choses vraiment différentes de nous.
Pierre, en revanche, nous connaissons votre nom. Continuons. Alors, on va pas tous les citer parce que sinon, il faut aller voir Thanatos, il faut aller voir le film, bien évidemment. Mais comme ça, il y a des gens incroyables. Donc, il y a des témoignages incroyables. Si vous voulez, on peut dire un mot quand même d'Olivier Anfou aussi, qui est Thanatopracteur, qui est un personnage incroyable, qui est très bienveillant, qui réconforte les morts. Hein.
Alors lui, c'est pas du tout une personne qui a fait ses expériences de mort imminente. Lui, c'est un être bien humain qui est là parmi nous et c'est un thanatopracteur. Donc c'est celui que personne ne veut voir. Donc c'est celui qui est, comment on appelle ça, les fossoyeurs en quelque sorte. Et lui, je vous invite à lire son livre. Je crois que son livre s'appelle « Dans mes mains » où il raconte toutes ses expériences absolument hallucinantes. Vous avez l'impression d'avoir un film, une vraie fiction. Et quand il les raconte, c'est tellement incroyable ce qu'il raconte. En fait, il raconte que lui, à la morgue, il a eu des expériences avec ses cadavres, où l'âme est encore là, où il y a quelque chose qui se passe, qui fait que ce métier-là, il le vit à fond et avec le sourire jusque-là. Et ça a été une très, très belle rencontre avec Olivier Anfou, qui est actuellement, je crois qu'il est parti en Angleterre aujourd'hui, il travaille pour un grand service, et qui va dès qu'il y a une catastrophe naturelle et qui a peut-être aujourd'hui plus de 20 000, il a mis en terre plus de 20 000 corps quand même, 20 000 cadavres sont passés entre ses mains. Et toutes ces expériences qu'il nous raconte, pour moi, étaient une preuve supplémentaire qu'il se passe réellement quelque chose. C'est-à-dire que la mort n'est pas une fin en soi. Et c'est ça le message que j'ai envie de dire, et pour réconforter les gens, écoutez, arrêtez d'avoir peur. D'un virus, pardon, on revient à ça parce que c'est la, non mais c'est la peur, hein. La peur de la mort est à l'origine de toutes les guerres, de tous les conflits, de toutes les, et c'est ce en quoi, pourquoi j'ai voulu faire ce film, c'est que la peur, c'est le principal virus qui se propage d'une façon exponentielle et qui touche tout le monde. Juste la peur et la peur de la mort, c'est, vous savez, à partir du moment où vous pouvez réussissez à faire peur avec la mort, vous pouvez en faire ce que vous voulez des personnes. Hein. Et non, parce que la mort, c'est au contraire, aujourd'hui, on a la preuve avec justement toutes ces expériences de mort imminente et avec fameux Olivier qui nous raconte des choses. Mmh. Au départ, c'est vrai que c'est un peu... C'est très perturbant.
Des cadavres qui remontent, des personnes mortes qui remontent, qui ont des bouffées de chaleur, on pourrait dire ça. Hein.
C'est un peu ça, oui. Puis des cadavres complètement brûlants, vous ne pouvez plus vous approcher parce que le cadavre, il est devenu incandescent quasiment. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est, là, on est dans la réalité, on n'est pas dans la fiction. Donc la réalité dépasse de loin la fiction.
Ce que dit aussi Martine, Namani et André, la mort n'existe pas.
Parce qu'il attendait, je suis sûr, pour me dire au revoir. Et me donner la force de pouvoir continuer sans lui et sans le bébé que nous attendions, puisque j'étais enceinte et que malheureusement j'ai perdu ce bébé. Et puis heureusement, la meilleure des choses qui me soit arrivée, c'est dans tout cet amalgame de vie, c'est que j'avais eu la chance de vivre une expérience de mort imminente pendant ce coma, pendant ces 25 jours.
C'est aussi un très très beau témoignage, très fort, et comme ça, ils sont tout au long du film. Alors, avant de repasser la parole à Christine, alors, il y a effectivement les témoins, et puis il y a les scientifiques et les médecins. Là encore, vous aviez le choix ?
Oui, j'avais le choix. Et pareil, j'ai voulu prendre des stars, en fait, encore une fois, au niveau scientifique. avec le docteur Eben Alexander, donc, qui lui a écrit plusieurs best-sellers, on pourrait encore une fois un petit peu être avec des gens dont on sait, dont on connaît la pertinence scientifique, et voilà, même si on peut ne pas être d'accord avec, avec son propos, et qui, en fait, qui ont eux-mêmes vécu ce genre d'expérience de mort imminente. C'est-à-dire que quand vous êtes un scientifique, un médecin, et c'est le parcours du docteur Eben Alexander, qui lui est passé par là. En étant passé par là, après il s'est dit, il s'est passé quelque chose, j'ai envie de comprendre. Donc il a demandé tous ses scanners et autres, et là il s'est vraiment rendu compte qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à partir du moment où vous avez une blouse blanche, vous êtes inhibé. C'est-à-dire que vous ne croyez plus en rien du tout, enfin, que la vie s'arrête à la mort. Mais ça, c'est une pensée purement occidentale. Hein. Parce que je pense qu'en Asie, on a une vision de la mort qui est complètement différente. Mais dans la façon dont on soigne les gens et donc on conçoit la mort en France, voilà l'arrêt cardiaque, vous avez... comment ça s'appelle sur le...
L'encéphalogramme
plat, c'est terminé. Allez, hop. Non. Il se passe encore des choses.
L'état de mort cérébrale.
Ben voilà. Mais ça soulève beaucoup de questions que je n'ai pas voulu aborder dans mon film, parce que j'ai voulu rester sur les témoignages. Mais oui, quand vous avez... Moi, j'avais été bousculé, pour ne pas dire... J'ai voulu qu'elle soit dans le film. Malheureusement, elle a refusé, parce qu'elle a arrêté de parler aux médias. C'est Chantal Yebi. Chantal Yebi, c'est une personne qui a écrit un livre, « Une larme m'a sauvé ». J'invite vraiment tout le monde à lire ce livre, qui est bouleversant. Elle raconte comment elle s'est retrouvée du jour au lendemain dans un coma très profond, et à un moment donné, on a décidé de la débrancher, et pourquoi pas, peut-être qu'il y avait eu des également, elle avait peut-être cédé son corps à la médecine ou au prélèvement d'organes. Et Chantal, en fait, quand elle était à l'hôpital, en fait, elle ressentait tout ce qu'on lui faisait. Tout ce qu'on lui faisait, on la ressentait. C'est-à-dire qu'on lui passait une sonde à l'intérieur de son corps, elle ressentait, elle savait que ça lui faisait énormément mal, elle ressentait la douleur. Et à un moment donné, elle me dit, je suis là, puis personne n'écoutait. Elle entendait tout.
Elle criait intérieurement.
Elle entendait tout, mais elle ne pouvait strictement rien faire. Et à un moment donné, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? S'ils vont prélever de mes organes, mais ça va être horrible, moi je ne vais pas pouvoir supporter. Et à un moment donné, donc, son mari arrive avec quasiment la plaque mortuaire, on dit, enfin vraiment avec... Et sa fille qui était enceinte. Et en fait, c'est quand sa fille enceinte lui a parlé de son bébé, à ce moment-là, il y a une larme qui a commencé à couler. Et là, tout a été arrêté. L'anesthésiste réanimateur qui l'avait vraiment malmené, parce qu'à un moment donné, pour bien montrer que c'était juste un cadavre, il lui a pincé le téton avec une violence très forte. Elle, dans son coma, elle a hurlé à la mort en disant « Mais moi, je vais le tuer, cet anesthésiste, juste pour montrer que voilà, qu'il y a les gens, enfin, c'est juste un tas de chair, parce que voilà, l'encéphalogramme est plat et qu'il n'y a plus rien à faire. » Ben non, non, au contraire. Et vraiment, ce livre, il m'avait bousculé. Je voulais avoir Chantal Yebi dans mon film. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Mais effectivement, ça pose pas mal de questions sur les prélèvements d'organes, sur... Moi, je n'ai pas la réponse. Hein. J'ai pas du tout... Moi, je suis juste là pour faire des films, pour mettre des situations en valeur, des personnages en valeur, et surtout des personnages qui continuent de changer les vies à un bon nombre de personnes, à commencer par la mienne, parce que pour répondre à la question, c'est vrai que ce film, pour avoir rencontré ces personnes-là pendant quasiment plus d'un an, les avoir suivis. Par exemple, il y a cette fameuse, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a une séquence qui m'a terriblement touché. Je peux vous assurer que sur le plateau, moi, j'ai vu quelques larmes, hein, parce qu'il se passait quelque chose, d'absolument incroyable avec tous ces personnages-là. Et moi, je travaille avec des gens qui sont complètement athées, qui n'ont aucune croyance et qui ont été bouleversés par tous ces témoignages.
Bravo et merci Pierre Barnérias, avec qui nous poursuivrons l'expérience de mort imminente à propos de Thanatos, l'ultime passage. Réalisation Roman Feocchio, avec la complicité de Nora Schnitzler et Michael Massi-Antonio.
Bravo et merci
Thierry Georges.